Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, je suis ravie encore une fois aujourd'hui, ce soir, de vous retrouver encore plus que d'habitude d'ailleurs, parce que ben, aujourd'hui c'est un an.
C'est vrai?
C'est déjà un an. Voilà, faites rouler les trompettes.
Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas faire.
Enfin voilà, c'est les un an, voilà, les confettis, les rubans. Voilà, ça fait. Alors je voulais compter un petit peu toutes les émissions, mais j'ai pas eu le courage de compter toutes les émissions, les papiers, les recettes que j'ai pu faire. Bon, ça sera pour une autre fois, les deux ans peut-être, on verra l'année prochaine.
Ouais.
Voilà. Donc pour le moment, encore une belle, de belles recettes. Avant déjà, bonsoir Nathalie et bonsoir Théo. Vous allez bien en cette belle soirée d'hiver?
32 épisodes au total.
Ah bah voilà.
Les deux saisons confondues.
Mais il est formidable, ce mail, c'est tout. Et tu sais combien tu peux nous dire combien de recettes en tout? Non.
Alors là, t'abuses parce que...
32, il y a 3 recettes par émission.
Non, parce qu'il y a...
3, voire 4, parce qu'on y a les bonus.
Ça arrivait quelquefois qu'il y a un phase 4, donc là, ça complique les choses.
Ouais.
Et même 33 émissions, pardon, parce que je crois qu'il y a un podcast qui avait dû sauter, malheureusement. Donc 33 émissions.
Eh ben voilà, comme le médecin, 33, c'est une bonne maladie.
34 avec celle-là, du coup.
Ah ouais, 34 avec celle-là.
Et 35 la semaine prochaine.
Bon, merci Théo.
Dans deux semaines.
Merci Théo pour
cette semaine. Ça avant les vacances.
On sait qui s'est compté.
Moi, je sais pas, mais si tu m'interromps, là, on n'aura pas fini alors.
C'est clair.
Encore. Parce que là, on a pas mal de chemin. Mais je vous emmène encore en voyage, encore aujourd'hui, puisque nous allons aller du côté de la Vendée. Et puis, nous irons faire un petit saut sur l'Italie avec le dessert. Donc voyons ensemble le menu de ce soir. Donc je vous ai parlé de la Vendée, bah justement on va faire une salade de mojette au jambon et vendéen. Pour cela, vous aurez besoin donc de 400 g de mojette. Alors vous prenez pas la tête hein, en bocal, c'est très très bien. Deux tranches épaisses de jambon vendéen. 4 tranches, oui. Moi, je sais pas lire encore. Je suis encore en CP. Et encore en CP, ils savent mieux lire que moi. Et puis, je suis dans une autre recette pour la semaine prochaine. Donc, tout se mélange dans ma tête. Et on va essayer de se reconcentrer. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Alors, j'ai mis neutre, type huile de pépin, de raisin. Voilà, mais bon, si vous avez pas, c'est pas grave. On dit neutre. Alors que le pépin de raisin, ça a un parfum un petit peu délicat. Donc, mais voilà, si vous n'avez pas, vous prenez l'huile de tournesol, c'est très bien, ou de colza, c'est très bien aussi. Un oignon blanc. Alors, j'insiste sur l'oignon blanc, c'est pas un oignon qu'on cuit, c'est un oignon qu'on mange cru, l'oignon blanc. Hein, donc faites bien
les petits là.
Oui, les petits oignons blancs. Voilà, parce que moi les premières fois quand j'ai commencé à cuisiner, on m'a dit un oignon blanc. Moi j'ai ramené un oignon blanc à cuire. Ben non, c'était pas ça qu'on me demandait. Voilà, donc voilà, c'est bien un oignon blanc que l'on ne cuit pas, qu'on va plutôt hacher. On va avoir besoin de 2 branches de persil plat. Si vous n'avez pas persil plat, c'est pareil, vous prenez persil frisé, c'est pas bien grave. 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Une cuillère à soupe, oui, mais deux cuillères à soupe de vinaigre de Xérès. Et puis là, on va avoir un petit mélange de salé sucré, ça va être superbe. Et 4 cuillères d'huile d'olive. 20 g de roquette, sel et poivre. Alors pourquoi 20 g? Vous verrez, c'est juste pour la petite déco, juste pour la fin. En ustensiles, on aura besoin d'une passoire, d'un couteau, d'une poêle, d'un papier absorbant, d'un bol et d'un saladier. Ensuite, on ira donc côté émincé de poulet. Et vous allez voir, on va avoir besoin d'une petite pincée. Alors ça, tout dépend de tout dépend de ce que pour les piments, tout dépend de ce que vous aimez. Moi, j'ai mis une toute petite pincée parce que j'aime pas trop épicé. Voilà, du poivre, du sel, 6 blancs de poulet, un citron ou alors du citron en bouteille si vous avez, c'est aussi bien. On va avoir besoin de 3 oignons, de paprika, de 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors, c'est facultatif, mais c'est fortement recommandé. Voilà.
C'est moi, plus gourmand.
Oui. Je trouve que c'est plus onctueux quand on a une sauce avec de la crème fraîche. Vous auriez pu rajouter de l'estragon, d'autres épices, mais là, j'ai fait au plus simple. Au côté ustensiles, on aura besoin d'un couteau, d'un plat à gratin, d'une poêle, d'une passoire, d'une cuillère en bois et d'un économe. Et puis, on va aller, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller côté Italie, puisqu'on va aller voir la torta della nonna. Donc, alors, certains appelleront ça la tarte au citron. Non, c'est torta della nonna. C'est vraiment spécifique à l'Italie. Vous verrez, on a travaillé l'histoire. Donc, on vous fera découvrir cette belle recette et cette belle histoire. Donc, pour cela, il faudra 400 g de farine, 200 g de sucre en poudre. Il vous faudra 200 g de beurre demi-sel ramolli, donc en pommade, 8 jaunes d'œufs, un sachet de levure chimique, 3 citrons bio, c'est mieux parce qu'on va prendre, on va prélever les zestes, une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à 100 g de sucre en poudre. Oui, je sais, je vous ai mis d'un côté du 100 g et de l'autre côté 100 g, donc ça fait 300 g, mais je vous détaillerai pour la recette parce qu'on a besoin des 300 g. Et puis, on va avoir besoin donc de 40 g de fécule de maïs. Alors, si c'est de la fécule style maïzena, c'est aussi bien. On aura besoin de 50 centilitres de lait, de 100 g de pignon de pain et du sucre glace. Pour les ustensiles, comme c'est une recette qui est un peu longue à faire, on a besoin d'un petit peu de matériel quand même. On va avoir besoin d'un couteau, évidemment, d'une cuillère en bois, d'une râpe, d'un économe, d'un saladier, de 2 casseroles, d'un chinois, d'un fouet, d'un moule à tarte, d'un pinceau, d'un rouleau à pâtisserie et du papier cuisson. Voilà pour les explications de nos recettes. Je vous propose déjà une première pause et puis après, on attaque les recettes, l'entrée de ce soir, c'est-à-dire les salades de mojette et jambon de Vendée. À tout de suite.
Personne n'est là que mon cœur a découvert un verre de margarita. collectif. Comment se connecter sans même se connaître. Verre de margarita, faut que je me ravitaille. Je te vois me dévitager. De nouveau seul à ta table, j'attends pas que tu m'y invites, car je te vois me dévisager. Verre de margarita, faut que je me ravitaille. Je te vois me dévisager. De nouveau seul à ta table, j'attends pas que tu m'y invites, car je te vois me dévisager.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour l'entrée de ce soir, à savoir la salade de mojette et jambon vendéen. Nathalie, dis-moi ce que tu peux nous dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces fameuses mojettes?
Oui, les mojettes, originaires du Mexique, et elles ont été rapportées par quelques navigateurs espagnols. Donc le haricot blanc prend son essor grâce au pape Clément VII. Et très vite, les qualités de culture et de conservation du produit lui permettent de conquérir la France. Au fil des décennies, la Vendée, territoire au climat propice, s'est imposée comme un des bassins principaux de production du haricot blanc. Le haricot blanc prend ses lettres de noblesse, la mojette de Vendée, prône aujourd'hui une qualité de produit irréprochable. Plus qu'un haricot blanc, elle souhaite en effet en faire un véritable produit d'exception. Il y a trois formes de mojette, sec, en conserve ou cuisinée. Cette variété, aussi connue sous le nom de lingot, sera consommable fraîche à partir d'août et toute l'année en sec pour une consommation plus traditionnelle, en demi-sec, surgelé ou encore pasteurisé et stérilisé pour être encore plus rapide et pratique. Avec plus de 70 producteurs label rouge, le territoire des mojettes de Vendée est une des régions majeures de la production d'haricots blancs en France. Au-delà même du produit, nos agriculteurs partagent cette culture d'une agriculture raisonnée où qualité passe avant la quantité. Ces femmes et ces hommes mettent tous les jours leur passion au service du goût pour faire de leurs produits un mets d'une grande qualité gustative.
Merci Nathalie. On peut dire merci aux navigateurs mexicains quand même, parce que sans eux, la mojette n'existerait pas.
Enfin, espagnol, parce qu'ils ont ramené ça du Mexique, effectivement.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc on peut dire merci au Mexique et aux Espagnols, merci à tout le monde,
ouais.
Aux navigateurs, au pape Clément VII, c'est ça que
oui,
tu
c'est
as
ça.
Dit voilà, donc, voilà, merci à tous. Merci Nat pour cette petite leçon d'histoire. Alors bon, pour cette recette, je vais vous rappeler quand même les ingrédients. Donc 400 g de mojette en bocal. Donc là, cette fois-ci, on va les utiliser en bocal. 4 tranches de jambon, de tranches épaisses de jambon vendéen. 2 cuillères à soupe d'huile neutre, donc type pépin de raisin. Un oignon blanc, 2 branches de persil plat, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, donc c'est celle qui a les petits grains à l'intérieur, 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 20 g de roquette et du sel et du poivre, bien sûr. Côté ustensiles, on aura besoin d'une passoire, d'un couteau, d'une poêle, d'un papier absorbant, et puis d'un bol et d'un saladier. Vous aurez besoin de 10 minutes de préparation, donc ça c'est vraiment une recette hyper simple, et 2 minutes de cuisson. Vous allez voir, c'est pour le jambon, parce qu'on va le faire un petit peu revenir. Et puis, donc vous voyez, en 12 minutes, grosso modo, on a fait la salade de mojette. On peut la manger chaude ou froide. Voilà, c'est comme on le sent. Donc, dans un premier temps, déjà, on va laver et essorer la petite roquette. Hein. Donc, j'ai dit 20 grammes. Si vous en avez plus, ce n'est pas bien grave. Voilà. Et puis, on va l'essorer. Vous pouvez le mettre dans une essoreuse ou juste entre deux torchons pour l'essorer. Ça suffira bien. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit jolie à l'œil. Puis dans une passerole, on va égoutter les mojettes, donc on ne gardera pas le jus. Et pas besoin de les rincer, vous voulez juste les mettre dans une passerole et une passoire.
C'est marrant que tu fasses le... ça fait deux fois.
T'as fait
un mix de passoire et casserole.
Ben ouais, c'est un nouveau ustensile, tu ne connais pas encore, mais je pense
t'as
que
déposé
vais...
le brevet ou pas?
Ouais, 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 je pense que je vais le déposer, c'est bien. Donc une passerole, ce qui est une casserole qui fait passoire. Voilà, comme ça vous aurez le détail. Et puis, donc on va éplucher l'oignon blanc, donc juste les feuilles, enfin les tiges qui sont en l'air. Alors gardez-les parce que... moi, j'aime bien garder les tiges d'oignon blanc parce qu'en fin de compte, ça a une bonne odeur de ciboulette, d'oignon.
Oui, d'accord.
Et vous pouvez l'émincer et le cuisiner. Ça va le mettre dans une autre salade. Donc, ça peut se garder. Voilà. Et puis, on va enlever le cul de l'oignon. Voilà. Si vous voulez vous amuser, vous mettez le cul dans une bouteille d'eau, dans un petit verre d'eau, et il risquerait de repousser quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est des essais que vous pouvez faire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, on revient à notre oignon qu'on a épluché légèrement. Juste enlever la première pellicule. Et puis, on va le ciseler. Alors, ciseler, je vous rappelle, c'est l'émincer finement. Hein, donc, vraiment très, très finement. Et puis, on va couper les tranches en petits morceaux. En morceaux, en dés, en ce que vous voulez, mais il faut que ça soit présentable dans une salade. Donc le mieux, c'est en dés, vous prenez pas la tête à couper, ou en lanière, ça peut être en lanière aussi, mais comme c'est des tranches qui sont un peu épaisses, c'est mieux en dés. Voilà, pour la présentation aussi. Et puis dans une poêle, on va mettre un petit peu d'huile et on va faire revenir ces morceaux de jambon à feu vif pendant 2 minutes. Vraiment, ça, c'est vraiment les faire revenir très léger avec un peu d'huile d'olive très léger. Au bout de 2 minutes, vous éteignez votre feu et vous les égouttez, vous les déposez donc avec peut-être un écumoir cette fois-ci sur du papier absorbant pour éliminer l'excédent de gras. Hein, qui peut y avoir. Donc vous laissez de côté et puis on va prendre un bol et on va mélanger donc la moutarde à l'ancienne avec le vinaigre de Xérès et on va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, tout dépend de votre goût, mais je vous rappelle que la dose c'est 2 pincées de sel pour 1 pincée de poivre. Et puis, on va y ajouter petit à petit l'huile d'olive tout en mélangeant. Donc, vous mélangez avec, par exemple, un fouet ou une fourchette. Ça, c'est, voilà. Vous allez effeuiller donc, et hacher le persil. Et dans le saladier, vous allez mélanger les mojettes. Alors, qu'elles soient chaudes ou froide, peu importe, hein, mais encore une fois, vous pouvez peut-être un peu les réchauffer, puisque le jambon il est chaud aussi, et puis vous mélangez bien avec l'oignon ciselé, le jambon, le persil, vous assaisonnez de vinaigrette, donc avec ce qu'on a préparé, moutarde à l'ancienne, xérès et huile de pépin, et puis vous décorez tout simplement avec la roquette. Et voilà, votre plat, il est fait, il est rigolo comme tout, il est sympa à faire. Et voilà, faites-le avec les enfants, ils vont raffoler de ce genre de choses-là. Et ça sera plus facile pour eux de manger après les mojettes. Voilà, et puis racontez-leur l'histoire des conquérants mexicains grâce aux navires espagnols, ça peut être sympa. Voilà, Nathalie, peut-être une petite chose sur le jambon vendéen, parce que c'est un petit peu particulier ce jambon vendéen.
Oui, le jambon vendéen, c'est une marque de certification agroalimentaire identifiant un jambon en salaison séchée, fabriqué à partir de cuisses de porc issues d'élevages de toute provenance géographique. La transformation doit s'effectuer obligatoirement selon un processus défini dans une aire délimitée comprise au sein de la région des Pays de la Loire, dans les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. La transformation doit répondre aux critères d'un cahier des charges géré par Vendée Qualité. C'est un organisme de défense et de gestion. Et pour cela, le jambon est désossé selon le principe os coulé. Ne me demandez pas, puis les frotter à la main avec un mélange de sel marin, d'épices, en particulier de la cannelle, du thym, du laurier, etc., et d'eau de vie. Il est ensuite mis sous presse et le séchage long étant impossible sous le climat océanique de la Vendée, les transformateurs ont développé cette méthode originale de nappage à l'eau de vie et de pressage pour raccourcir le temps de maturation. Celui-ci passe ainsi de 3 à 1 ou 4 mois au lieu des 6 à 9 mois requis pour la plupart des autres jambons crus. Et pour finir, le jambon de Vendée est séché et affiné.
Eh bien, merci Nat. Eh bien, après cette belle recette et ces deux belles histoires et cette culture, parce que la culture vendéenne, ça fait partie de notre patrimoine français. Donc, il faut en être fier, je trouve. Voilà, ben, je vous propose une pause avant le plat principal. On se retrouve tout de suite.
Écoute bien, écoute bien. C'est une nouveauté In Fine Radio. I keep a pistol under my pillow at night. Yeah, yeah. I close the curtains and I sharpen my knife. I build my walls up and I build them up so high. Yeah, yeah. So no one's getting inside. I learned my lesson last time. Baby, just walk away, just walk away. You heading straight for danger. Hey, make a mistake. I'm just a little bit out of my mind. 'Cause I'm cold.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et nous allons poursuivre avec un plat qui est une mise à l'honneur un peu du citron, puisqu'on va avoir le plat et le dessert qui va être à base de citron. Donc deux façons de les cuisiner, une salée et une sucrée. Voilà, pour un émincé de poulet au citron, un vrai délice. Vraiment, c'est moi, je m'éclaterais la panse avec ce genre de choses-là, entre autres. Hein, voilà. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur le citron ?
Oui, le citron ou citron jaune, donc c'est un agrume, c'est le fruit du citronnier, le citrus limon. Il existe sous deux formes, le citron doux, fruit décoratif de cultivar à jus peu ou pas acide, néanmoins classé citrus limon, et le citron acide, j'étais partie dans mon... le plus commun de nos jours, dont le jus a un pH d'environ 2,5. Ce fruit, mûr, a une écorce qui va du vert tendre au jaune éclatant sous l'action du froid. Je pensais que c'était le contraire. La maturité est en fin d'automne et début d'hiver dans l'hémisphère nord. Sa chair est juteuse. Le citron acide est riche en vitamine C, ce qui lui vaut avec sa conservation facile d'avoir été diffusé sur toute la planète par les navigateurs qui l'utilisent pour prévenir le scorbut. De l'écorce, on extrait une huile essentielle qui contient, entre autres substances, le limonène, c'est ça, et du citral.
Merci Nathalie. Alors, juste un petit conseil, on ne met pas des citrons frais au froid, ça ne sert à rien.
Ah bon?
Non.
Moi, c'est juste quand il est déjà entamé. Tu vois, je coupe la moitié, l'autre moitié, je la mets au frigo.
Dans ces cas-là, tu vas le conserver. Oui. Et à la limite, le mieux, c'est de le filmer.
Parce c'est ce que je fais.
Voilà. Mm. Mais pour la consommation, voilà, éviter de mettre au froid.
Ah non, quand il est entier, je ne le mets pas
voilà,
au froid.
Ce fruit, comme parmi tant d'autres, hein, les tomates, on évite de les mettre au froid. Les autres légumes, parce que le froid, plus le chaud, plus le froid, plus le chaud, parce que quand ils sont dans les magasins ou sur les marchés, c'est pour ça qu'on a, parfois l'intérieur qui est complètement naze parce que c'est le chaud froid des deux. Voilà, donc merci. On va revenir un petit peu à notre émincé de poulet au citron. Alors je vous en rappelle un petit peu les ingrédients. Il faudra donc une pincée de piment, du poivre évidemment, du sel, 6 blancs de poulet, un citron bio ou en bouteille, c'est comme vous sentez, mais enfin c'est mieux en citron. Un citron, puisqu'on va... non, c'est pas dans celle-là qu'on prend le zeste. Je mélange les pinceaux. On aura besoin de 3 oignons, du paprika, on aura besoin de 3 cuillères à soupe de crème fraîche, côté ustensile d'un couteau, d'un plat à gratin, d'une poêle, d'une passoire, d'une cuillère en bois et d'un économe. Il vous faudra 20 minutes pour cette recette, dont 5 de cuisson. Donc, vous voyez, c'est pas très, très. C'est pas une grande préparation et ça va très vite. Hein. Je vous rappelle que c'est le poulet. Alors, pour commencer, déjà, on va découper le poulet en long et en fines lamelles. Donc, de façon que ça fasse des aiguillettes. Alors, si vous trouvez des aiguillettes de poulet, c'est encore mieux. Vous n'aurez pas à les couper, mais bon, voilà, c'est comme on le sent. Ensuite, vous allez les saupoudrer généreusement de toutes les épices qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire le sel, le poivre, le piment, le paprika. Et puis, vous allez mettre dans un plat à gratin et le couvrir avec le jus de citron. Le jus de citron, grosso modo, ça doit faire 10 ou 15 grammes de jus de citron, hein, grosso modo. Hein. Mais voilà, pressez votre citron. Et puis, si vous n'avez pas de citron sous la main et que vous avez une bouteille, dans ces cas-là, vous prenez 10 à 20 grammes de jus de citron. Et vous allez laisser de côté les lamelles. Vous les retournez de façon à ce que, quand même, de façon qu'elles soient bien imbibées et puis qu'elles soient recouvertes de toutes les épices. Donc, c'est une petite marinade, hein, mais gentillette, parce qu'on n'a pas... On ne va pas les faire tremper longtemps. Important, vous les couvrez d'un film plastique de façon à ce que l'air ne passe pas et que le citron soit bien imbibé, enfin que le blanc de poulet soit bien imbibé de toutes ces épices et du citron. Pendant que le poulet se repose tranquillement, vous allez éplucher l'oignon, le hacher et faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile. Alors faire revenir à feu doux, hein, bien évidemment. Et lorsque l'oignon a une belle couleur ambrée, vous égouttez le poulet donc dans un écumoire, hein. C'est pas la peine de le faire sécher parce que sinon vous allez enlever vous allez essuyer toutes les épices qu'on a mis à l'intérieur, qu'on a mis dans cette marinade. Donc vous prenez une fourchette, vous l'égouttez voilà, qui est peu de gouttes, et puis vous allez le faire revenir dans la poêle avec les oignons. Donc tout ça, ça va prendre le goût du citron, du paprika et puis un petit peu de piment. Vous pouvez rajouter un petit peu de piment d'Espelette si vous le souhaitez. Et si donc si les lamelles sont bien fines, ça prendra quelques minutes. Hein. C'est pour ça que je mets 2 minutes de cuisson parce que ce sont des aiguillettes. Si c'est trop épais, vous mettez un peu, vous prolongez. Mais vous verrez vite arriver le blanc. Hein, le blanc normalement, le poulet cru, il est rosé, il est marron. Enfin, il est plutôt rosé.
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 Si il est marron, faut s'inquiéter. Je
non,
pense.
On va dire un marron tendre. Enfin bon, voilà. Je sais pas trop définir la couleur, mais et quand il devient blanc entièrement, si vous n'êtes pas sûr, vous en prenez une aiguillette, vous la coupez en deux, vous verrez, l'intérieur doit être c'est entièrement ça. Blanc. Voilà. Et donc vos aiguillettes, elles sont cuites. Il vous reste juste à mettre, à rajouter dans votre casserole, hein, dans la poêle, la crème fraîche. Et puis, laissez finir de cuire tout doucement à feu doux, là, on y va tout doucement, pour que la crème épaississe. Une fois qu'elle est épaisse, ben vous servez à table. Voilà, tout simplement. Ça va aussi. Alors, il ne faut surtout pas qu'elle boue. Donc, ces petits bouillons, vraiment tout petit, 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 c'est vraiment à feu doux. Ne faites pas bouillir votre crème fraîche, parce que sinon, ça ne sera pas bon. Et puis on servira ce plat, vous pourrez le servir avec ou une salade, ou du riz blanc, ou encore des tagliatelles, c'est comme vous le voulez. Vous voyez, c'est une recette qui est encore une fois facile, il n'y a que 20 minutes, vraiment. J'en aurai d'autres comme ça, hein, où ça dure 20 minutes, et parce que le cuisiner le poulet, c'est vraiment très 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 facile. Donc voilà, un plat facile, rapide à faire et à refaire. Dis-moi Nathalie, tu nous as parlé du citron qui vient du citronnier, mais son origine au citron jaune.
Du citron jaune. Alors l'origine du citron jaune est longtemps restée inconnue, notamment en raison de son polymorphisme et de sa diversité intervariétale. Les chercheurs situaient son ancêtre sauvage dans la région d'Assam, la région indo-birmane ou en Chine. Des études phylogénétiques en 2016 montrent qu'il est né en Méditerranée et est issu d'un hybride entre la bigarade, c'est une orange amère, et le cédrat vers le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, bien que le citron ait longtemps été confondu avec le cédrat, des récits grecs remontant du 3e siècle indiquent que le citron a fait son apparition en Grèce antique à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le botaniste Théophaste lui attribue des qualités médicinales, notamment pour lutter contre les poisons. Il est utile dans le cas d'empoisonnement par un liquide vénéneux, car pris dans du vin, il agit violemment dans le ventre et fait évacuer le poison. Il sert également à éloigner les parasites des vêtements et à parfumer, selon l'auteur grec Athénée de Naucratis, le citron commence à être consommé en aliment à partir du 2e siècle, servant notamment d'assaisonnement. Le citronnier servait à l'origine de plante ornementale dans les jardins de plaisance au Moyen-Âge, notamment les jardins islamiques à partir du 10e siècle. Le citron est progressivement introduit dans l'alimentation médiévale où il est utilisé comme fond acide destiné essentiellement aux aménagements de légumes crus ou d'assaisonnement de toute nourriture au même titre que le verjus, le vinaigre ou le jus d'orange. Il est cependant probable qu'il ait servi de technique de conservation de la viande par l'acide depuis l'Antiquité. Durant le Moyen-Âge, le citron sert pour les marins à lutter contre le scorbut, on l'a dit tout à l'heure, en raison de sa grande teneur en vitamine C. Il est présent sur les bateaux des conquistadors espagnols lors de la conquête de l'Amérique et est implanté dans les régions les plus ensoleillées comme la Californie ou la Floride. À Menton, les premiers citronniers sont cultivés depuis le XIVe siècle. L'agrumiculture de Menton connaît un âge d'or entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec 2,8 millions de quintaux d'agrumes, donc oranges douces et citrons confondus, aggravé par une culture parcellaire pas assez dense. En 1956, la maladie du mal séco, due à l'ascomycète foma trachéphila pétri, ravage les citronniers. Enfin, l'exode agricole et le développement de l'urbanisme ont eu raison de la production mentonnaise à grande échelle. À partir de 1992, en partenariat avec l'INRA, la ville de Menton aide financièrement les producteurs afin de relancer la production de citron de Menton. En 2015, la mention IGP, qui veut dire indication géographique protégée, est attribuée au citron de Menton.
Eh bien, merci. C'était une histoire intéressante quand même, quoi qu'on en dise. On se retrouve avant une pause avant le dessert, peut-être ?
Ah oui.
Ah ben allez, à tout de suite.
So much up way, but you're making it hard to let go when I feel the same way. You got me so hooked up till I heard about other girls. When I ask you what's the purpose, you say you have a bad obsession, and you know thought you had something special. You know different. Tell yourself it's not your fault, it's your accent. You know you do.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bon, bah écoutez, nous revoici pour le dessert, donc à savoir la torta della nonna. Donc la torta della nonna, je vous rappelle les ingrédients. On va avoir besoin donc pour la pâte sablée, on va faire une pâte sablée, on va faire une crème pâtissière, et puis on finira par le sucre glace. Donc on aura besoin de 400 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 200 g de beurre demi-sel, de demi-sel ramolli, 8 jaunes d'œufs, un sachet de levure chimique, 3 citrons bio, 1 cuillère à café d'extrait de vanille. On aura besoin de encore 100 g de sucre en poudre, de 40 g de fécule de maïs ou de maïzena, c'est comme vous le souhaitez.
Comment ? C'est pas la même chose ?
Ouais, c'est une marque peut-être. Mais de fécule. Voilà, de fécule. Ça peut être aussi de la fécule de pomme de terre. On peut la trouver, mais bon, en général, c'est maïs et c'est maïzena. Puisqu'elle s'appelle maïzena à cause du maïs. Voilà, ça y est, ça me revient. Il y a des moments où mon cerveau se connecte pas forcément bien. Donc... Alors, je continue. Pardon. Donc, on va avoir besoin de 50 grammes. Ah ben, c'est les 1 an, hein, donc il faut que ce soit pull-up. Donc, 50 centilitres de lait, 100 grammes de pignon de pain, du sucre glace. Et puis, côté ustensile, on va avoir besoin d'un couteau, d'une cuillère en bois, d'une râpe, d'un saladier, d'un économe, de 2 casseroles, d'un chinois. d'un fouet, d'un moule à tarte, d'un pinceau, d'un rouleau pâtisserie, et d'un papier cuisson. Alors, pour commencer, hein, donc, cette recette qui est un peu longue, mais elle est vraiment délicieuse. Et l'idée, c'est de faire une pâte sablée qu'on va voir tout à l'heure. Il vous faudra quand même 40 minutes de préparation, il y aura 40 minutes de cuisson et il y aura 2 heures de repos. Je vais vous parler de la crème pâtissière tout de suite. Le mieux, c'est que la crème pâtissière, de la faire la veille, comme ça, elle a bien le temps de refroidir. Contrairement à la tarte au citron, qui n'est pas du tout la même chose, on la met chaude dans le plat. Donc, vous allez voir, ce n'est pas du tout le même... Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le même processus. Donc, ça ne s'appelle pas de la tarte au citron. Voilà. Ça s'appelle la torta del Nonna. Moi, j'aime bien le nom Nonna. Je trouve que c'est mignon.
Ouais.
Alors, on va commencer déjà par râper finement le zeste de citron. Donc, s'il est bio, tant mieux. Sinon, vous le lavez bien et vous le frottez. Voilà. Prenez plutôt bio, mais ça n'empêche que même s'il est bio, vous le lavez et vous le frottez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on a vraiment le zeste. Donc on prélève le zeste entier, hein, du citron. Et puis dans un saladier, on va mélanger donc 400 g de farine, 200 g de sucre, le sachet de levure et les zestes que l'on aura fait et qu'on aura vraiment râpé très très très, très, très très finement. C'est râpé, donc le mieux c'est de prendre une petite râpe très très fine et puis de râper le zeste de citron. Hein, moi je le fais comme ça et on rajoutera donc l'extrait de vanille. Et puis on va faire un petit puits pour pouvoir mettre les 4 jaunes d'œufs au centre. Et puis on va mettre les 200 g de beurre demi-sel ramolli en petits morceaux. Et vous allez rapidement pétrir jusqu'à obtenir, vous allez voir ça va très très vite, jusqu'à obtenir une pâte qui est homogène. Une fois que vous avez formé une boule, donc vous prenez pas la tête à la faire rouler, hein, vous allez voir bien dans les mains, elle tient facilement, sauf si on a des très petites mains. Donc, vous allez l'envelopper, ça c'est important, de l'envelopper dans du film alimentaire. Hein, le film étirable, de façon qu'il n'y ait pas d'air du tout. Et vous allez réserver au moins pendant 30 minutes au frigo. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on va s'occuper de la crème pâtissière. On appelle ça de la crème pâtissière parce que on va mélanger les œufs et le sucre et on va faire bouillir le lait et on va le poser dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça de la crème pâtissière. Mais elle va être légèrement changée puisqu'on va prélever des 2 autres citrons qui nous restent. On va prélever donc avec un économe le citron. La peau du citron. Donc là, on le fait avec un économe. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans une casserole, on va mettre, dans une petite casserole, on met le lait, on ajoute les zestes et on porte à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on va enlever ces épluchures. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de zeste. Là, c'est vraiment avec l'économe. On est bien d'accord. On épluche avec un économe. Alors que sur la pâte sablée, on a besoin que ça soit très très fin pour qu'elle se mélange à la pâte. Donc on est bien d'accord. Donc après, on doit enlever ces zestes. Justement, on va se servir du chinois pour filtrer et on va donc retirer les zestes. Et on va réserver au chaud le lait. Sans le faire bouillir, ça ne sert à rien. On a juste le parfum du citron qui s'est mêlé au lait. Vous allez prendre un saladier. Vous allez mettre dans ce saladier 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre. Alors, vous pouvez le mettre dans un saladier ou une casserole, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets dans un saladier dans un premier temps parce qu'après, au fouet, je vais bien blanchir mes œufs, mes jaunes d'œufs et puis mon sucre. Et pour bien blanchir, que ça devienne un jaune très très pâle, je vais y ajouter la fécule. Puis, donc tout en fouettant, je vais petit à petit rajouter le lait qui est encore chaud. Donc petit à petit, le lait, il va cuire légèrement et vous fouettez de plus en plus. Vraiment, vous remuez, vous cessez pas de remuer en fin de compte. Hein, surtout avec le fouet, c'est important. Donc ça, c'est hors du feu. Une fois que vous avez, donc c'est dans un saladier, on est bien d'accord. Donc vous renversez votre saladier où il y a toute cette préparation dans la casserole du lait, tout simplement, et vous remettez au feu et vous mélangez régulièrement jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois que la crème est épaissie, c'est cuit. Donc ben, vous remettez à la limite dans un saladier, dans le saladier qu'on a utilisé tout à l'heure, sans le rincer, sans rien, ça n'a pas la peine. Et puis vous filmez. Voilà. Vous filmez donc avec un film étirable et vous laissez refroidir complètement. Donc ça, c'est important. Alors moi, je vous conseille, parce que comme c'est chaud et que vous allez le couvrir, ça va faire des petites bulles. Donc faites un ou deux trous dans le papier film, de façon à ce que la vapeur puisse partir. S'il y a de l'eau, c'est pas bien grave. Une fois qu'on aura... Donc c'est pour ça que je vous disais ça de faire la veille, parce que c'est long à refroidir. Et si vous la mettez au frigo, votre frigo, il va prendre une claque. Mm-mm. Donc, il vaut mieux pas le mettre... Alors, on peut le mettre dehors, c'est bien, parce qu'en ce moment, il fait froid. Donc, vous pouvez le mettre dehors en un quart d'heure, 20 minutes, ça va être tout froid. Donc, voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous préparez la veille, ça peut être aussi bien. Donc, quand vous avez fait... les deux choses sont faites... On va donc déjà beurrer généreusement le moule à tarte. Alors, si c'est un moule à tarte, on enduit de beurre maximum tout le moule. Si c'est un fond, vous savez, c'est des cercles. Donc, on fait que le cercle, ça suffit amplement. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien moi faire, c'est que je ne me prends pas la tête, je prends un papier sulfurisé, un papier de cuisson, je le chiffonne. Et je l'étale dans mon plat à tarte. Alors, je le chiffonne. Pourquoi ? Parce qu'il est plus mou et ma pâte, elle va plus épouser les bords. Voilà, c'est une astuce supplémentaire que je vous donne. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre moule au frigo de façon à ce que votre beurre durcisse bien. Et vous allez sortir votre pâte du réfrigérateur qui a passé 30 minutes au frigo. Et on va la couper deux tiers. Un morceau, un tiers, l'autre morceau. Et on va étaler dans un premier temps le plus gros morceau, puisque ça va être le dessous de notre tarte.
Le fond de notre tarte.
Notre fond de tarte. Donc, donc on l'étale au papier. Alors, moi, j'aime bien l'étaler dans le papier sulfu. Comme ça, j'ai plus qu'à poser mon papier sulfu dans l'anneau ou dans le plat à tarte. Une fois que c'est fait, alors... important, c'est l'épaisseur de la pâte. Il faut vraiment que ça soit un demi-centimètre, pas trop fin, parce que sinon on va pas avoir le croquant de cette pâte sablée, et pas trop gros, parce que sinon ça va pas être assez cuit. D'accord ? Donc un demi-centimètre, ça suffit. On va le déposer, donc cette pâte qu'on a étalée sur le papier sulfu, comme ça, ça colle pas, parce que la pâte sablée, elle colle un peu, hein, parfois, hein. Sauf si on lui met un petit peu de farine et de sucre glace. Donc c'est pour ça que dans un papier sulfu, on arrive au demi-centimètre, on prend le papier sulfu, on le met dans le moule à tarte, et votre moule, il est fait. Vous, avec les doigts, vous coincez de façon à ce que ça épouse bien le disque et le moule. Et on va y déposer notre crème pâtissière froide. Alors avant, il faudra la fouetter légèrement, de façon à ce que si jamais vous avez, qu'elle redevienne un petit peu liquide. Vous allez voir, elle va revenir, pas liquide, mais qu'elle soit, que le, ce qui est la croûte qui va être au-dessus, en fin de compte, va se mélanger. Voilà. Si je me fais bien comprendre, on la fouette légèrement avant de la mettre à l'intérieur. Donc on la met à l'intérieur du moule. Et le deuxième morceau, donc le un tiers qui nous reste, on va l'étaler celui-là. Pareil, vous pouvez l'étaler sur un papier sulfu, pour vous c'est plus facile. Et puis on va le mettre par-dessus. Et donc, il faut que nos bords de notre tourte soient en jointure avec la pâte qu'on va mettre par-dessus. On est bien d'accord ? Donc, ça fait comme une tourte, un chapeau. Hein, donc, on met un chapeau. vous prenez pas la tête, vous passez un coup de rouleau dessus, tout simplement. Donc en léger, hein, léger. Et puis, si vous avez utilisé le papier sulfu, c'est encore mieux. Donc vous mettez votre papier votre pâte avec votre papier sulfu au-dessus. Vous passez un coup de rouleau. Le rouleau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper les bords. Et vous n'enlevez plus que gentiment votre papier sulfu que vous ne laisserez pas dessus. Voilà. Et votre bord, il est scellé et impeccable. Si vous trouvez que ce n'est pas assez scellé, bah dans ces cas-là, vous pincez votre moule, vos bordures. Mais en général, c'est scellé avec le papier de sulfu. Les deux pattes. Voilà. Donc, notre pâte, elle est faite. Je ne sais plus où j'en suis, puisque là, vraiment, je l'ai fait de tête. Et puis, vous allez badigeonner ensuite la surface de blanc d'œuf. Bon, on a quand même 7 blancs d'œufs de mémoire qui nous restent. Donc, vous le badigeonnez de blanc d'œuf. Et ce qui reste, bah, vous les mettez au congélateur, puis vous en faites des meringues aussi. Ça peut être aussi bien. Et puis on va enfourner 30 à 35 minutes dans un four à 160 degrés. Voilà.
J'ai une question.
Oui, dis-moi.
D'habitude, on badigeonne avec du jaune d'œuf.
Oui.
Pour que ça dore.
Oui.
Pourquoi du blanc?
Parce que c'est la recette qui est comme ça.
Du coup, ça donne quoi sur le dessus?
Ça fait un brillant. C'est du brillant, en fin de compte, ni plus ni moins. Voilà, dès que votre tarte, elle est cuite, la sortie du four, vous la laissez refroidir avant d'aller démouler délicatement. D'où le papier sulfu en dessous. Et au moment de la présenter, eh ben, vous allez la saupoudrer de sucre. Et puis, de sucre glace, avant de la servir. Voilà. Notre torta del Nonna est prête à déguster et à partager. Voilà. Alors, pour se remettre un petit peu de nos émotions, parce que moi, ça m'a donné la salive dans la bouche. Ça donne
faim. Je ne connaissais pas en plus. Hein, j'ai très envie d'essayer.
Ah, mais essaye, tu verras, c'est délicieux. Mm-hmm. Voilà, bah, je vous propose une pause et puis on se retrouve tout de suite.
Qui gronde, je pense à toi à chaque seconde, comme la pluie sur la fenêtre, tu me dis oui et puis peut-être, mais moi je t'aime pour la première fois, mais moi je t'aime, je ne veux que toi, premier amour, au premier. Premier amour, au premier baiser.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici, on parlait avant la pause de la recette de torta della nonna, mais je pense que Théo a envie de nous dire quelque chose. D'où vient cette belle recette, Théo, dis-nous.
C'est gentil, je pensais que c'était Nanou qui allait me lancer, mais ce n'est pas grave. Non, je me disais tout simplement que moi, je ne faisais pas grand-chose dans cette émission, donc je me suis dit que j'allais m'incruster. Désolé, Nanou.
Bah, c'est pas grave, on te laisse le dessert, c'est le meilleur.
Elle ne m'a pas laissé faire celle d'avant, mais c'est pas grave. Tout simplement, quelle était ta question, Anne? Pardon, j'ai pas...
Et juste, je voulais savoir juste d'où elle vient cette recette, hein, cette tarte.
Eh bien, figure-toi que la torta della nonna, moi, j'essaye de mettre un petit peu l'accent, en français, ça veut dire gâteau de grand-mère, et c'est un dessert qui, au fil des ans, est devenu une partie intégrante de la cuisine toscane typique, probablement en raison de sa complexité. Et il faut savoir que le gâteau a connu un tel succès qu'il devint un classique proposé dans la grande majorité des restaurants, notamment dans les années 80 et 90 du XXe siècle. Compte tenu donc de sa grande popularité dans les restaurants, les origines de ce dessert se sont perdues. Selon certains, la véritable origine de ce dessert peut être attribuée à la région d'Arezzo. Qu'est-ce qu'il y a, Nanou ?
Moi, vite.
Ouais, ça va. Oh. Bon, c'est mon moment. Tandis que d'autres optent pour une origine florentine plus récente. Certaines sources disent que le gâteau est né d'un pari de Guido Samorini, un cuisinier et restaurateur florentin. Et selon la version la plus courante, certains clients, lassés des quelques desserts que la cuisine du restaurant proposait, lui demandèrent une surprise pour la semaine suivante. Samorini leur présenta ce simple gâteau qui plaisait tant par son goût et sa nouveauté. Cependant, un passage de Pellegrino Altozzi insinue le doute pardon, que la torta della nonna existait déjà bien des années plus tôt. J'ai trouvé le dessert au pignon et à la crème pâtissière, une pâtisserie agréable, une pâte sablée médiocre. L'une des variantes de ce dessert, c'est la torta del nonno, avec l'ajout de cacao et l'utilisation d'amandes à la place des pignons. Et d'autres variantes incluent l'ajout de cerises noires à l'intérieur de la crème. Et il faut savoir que ce gâteau fourré est maintenant disponible dans toute l'Italie et est même très populaire en Sardaigne. Pourquoi j'ai mis l'accent alors qu'il n'y en a pas ? La recette est considérée comme la conclusion classique dolce d'un repas dominical italien. Italiano.
Merci, et merci Théo, vraiment, ça me fait plaisir.
Faut me les laisser à moi, parce que moi je mets des accents.
Non mais c'est bien, donc écoute, sur les prochaines émissions, je te promets, je te ferai intervenir avec l'histoire, avec la provenance. Voilà, moi je...
Ouais, ça, on verra selon mon humeur.
Voilà, mais c'est ça, mais juste me prévenir quand tu interviens, voilà, que je compte sache. Voilà. Mais écoutez, notre émission, on est à 2 minutes de la fin. Je voulais remercier Nathalie et Théo. C'est pas marqué dans le script.
Non.
Mais
c'est ce que j'allais dire. Il y a pas cette ligne.
Mais oui, il y a des fois, j'improvise, comme beaucoup de fois d'ailleurs. Je voulais vous remercier de m'avoir accompagné pendant un an déjà. 33 émissions. 34 avec celle-ci d'aujourd'hui. Voilà, c'était moi. Je suis super contente de venir à la radio et ça me donne une petite bouffée. Et ça me permet de partager toutes mes recettes que je teste.
Elle m'a fait peur. Elle a dit ça me donnait une petite bouffée. J'ai cru qu'elle allait nous dire bon je me casse.
Non. Enfin après, si vous voulez me garder, voilà. Vous,
ah bah bien sûr qu'on te garde.
Si vous me dites voilà. Alors moi je serais assez curieuse, j'aimerais bien que nos auditeurs nous mettent un petit peu les recettes qu'ils aimeraient avoir. Moi ce qui me permettrait de tester ces recettes, parce qu'en général je les teste à un moment donné, de toute manière ces recettes je les fais. Qu'à la table d'hôte je suis, j'aime bien changer un peu toutes mes recettes. Qu'elles soient originales, alors le truc déstructuré tout ça c'est pas mon fort.
Qu'est-ce que tu appelles
destruction ? On a, en ce moment, on a beaucoup de choses, des gens qui mettent des petits... Alors, j'ai rien contre des structures, hein, mais moi, un Paris-Brest, ça sera un Paris-Brest.
Ah oui,
ça
revisiter,
sera pas,
tu veux
ça
dire ?
Ça sera pas revisité. Ouais. Un Saint-Honoré, ça sera toujours un Saint-Honoré. Voilà, j'ai du mal avec ces nouvelles cuisines, ces nouvelles... Par contre, des cuisines, des mets de pays différents, moi, ça m'éclate. Parce que ça me permet de tester, et puis c'est d'autres goûts, et ça nous permet de découvrir un petit peu le monde à travers la cuisine. Voilà. C'était la fin de notre émission. Il nous reste à vous souhaiter une très belle soirée, un très très bon appétit. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même jour, avec des nouvelles recettes aussi originales, faciles et rapides et surtout délicieuses. Prenez soin de vous. On vous souhaite une très très bonne soirée. À la semaine prochaine.
Au revoir.